السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la semaine dernière on s'est arrêté à la tribu des Bani Abd al-Dar et le rôle que la tribu des Bani Abd al-Dar vont jouer dans la bataille de Uhud. On a expliqué que on arrive au moment où les deux armées se font face, et qu'à l'époque, les étendards avaient un rôle important. Et chez les idolâtres, dans l'armée idolâtre, ceux qui étaient chargés de porter l'étendard, c'est la tribu des Bani Abd al-Dar. On avait fait un rappel la semaine dernière d'où ça vient, cet héritage. Et ça vient d'un ancêtre parmi les tribus Quraychites. Un des fils de Qusay ibn Kilab, qui s'appelait Abdu'd-Dar. Et Abdu'd-Dar, il avait hérité de Al-Liwa, l'étendard, et Darun Nadwa, le parlement de Quraysh, Darun Nadwa, et aussi Al-Hijaba, yani le fait de prendre soin d'entretenir la Kaaba, avoir les clés de la porte de la Kaaba, la nettoyer, l'ouvrir, la fermer, etc. Ala kulli hal, l'étendard a toujours été confié à la tribu des Bani Abd al-Dar. Et Abu Sufyan, il est le chef de l'armée idolâtre, mais il est obligé, il est obligé de confier cet étendard à la tribu des Bani Abd al-Dar. Et on avait vu la semaine dernière qu'il est parti les provoquer juste avant le début de la bataille, en leur disant vous êtes les porte-étendards, et nous savons qu'une des grandes causes des victoires militaires, c'est par les porte-étendards. Et une des grandes causes des défaites militaires, c'est par les porte-étendards. Et vous savez ce qui nous est arrivé, ce qui est advenu de nous à la bataille de Badr. C'est donc à cause de vous, les Bani Abd al-Dar. Et donc, si vous ne savez pas vous occuper convenablement de l'étendard, rendez-le nous. Évidemment, l'objectif de l'intention d'Abu Sufyan, ce n'est pas d'avoir l'étendard. C'est juste de provoquer leurs sentiments pour qu'ils soient le plus braves possible. Et ils touchent là où ça fait mal. Et donc les Bani Abd al-Dar sont galvanisés par ces propos et ils disent : « Tu verras aujourd'hui si nous sommes à la hauteur de l'étendard ou non. » Et donc, les Bani Abd al-Dar, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont provoquer en duel les musulmans. Et c'est Talha ibn Uthman parmi les Bani Abdiddar qui va sortir parmi les idolâtres. Talha ibn Uthman qui va sortir pour aller provoquer les musulmans. Il va dire qui veut faire un tête-à-tête, un duel. Mais tête-à-tête, pas comme aujourd'hui. C'est avec les épées, les boucliers. Non. Et finalement, c'est Ali ibn Abi Talib qui va sortir et qui va, en deux, trois coups, le mettre à terre et le blesser gravement à la jambe. Et lorsqu'il va aller pour l'achever, Talha ibn Uthman, il va dire « Unashiduka ibn Ammi, unashiduka Allah wa rahim. » Au fils de mon oncle, yani au cousin, au fils de mon oncle, « Unashiduka Allah wa rahim. » Je te supplie, je t'implore par Allah et par les liens de parenté qu'il y a entre nous. Et quand il est tombé, Talha ibn Uthman, son vêtement aussi est tombé et il a laissé dévoiler sa nudité. Et donc finalement, Ali ibn Abi Talib ne va pas l'achever. Et les compagnons vont lui dire, pourquoi tu ne l'as pas achevé? Et il va dire, pour deux raisons. La première, il va dire, le fils de mon oncle, il va parler de lui en disant, le fils de mon oncle, il m'a supplié à travers Allah et à travers les liens de parenté. Comment pourrais-je encore l'achever après ça? Et en plus, j'ai eu honte parce qu'il était dans une situation humiliante. Son vêtement était tombé dans le combat et donc il était à terre et on voyait sa nudité. Donc ça, c'est le duel. Ensuite, les Bani Abdiddar vont jouer un rôle important dans la bataille de Uhud, comme on vient de le voir là. Là, au tout début, là, la grande bataille n'a pas encore commencé. Là, c'est des provocations par-ci et par-là. Mais il faut savoir qu'il y a aussi, il n'y a pas que les hommes parmi les Bani Abdiddar, il y a aussi les femmes. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait un groupe de femmes qui accompagnaient l'armée idolâtre. Et il y a des femmes parmi les Bani Abdiddar qui sont venues. Par exemple, Khunas bint Malik. C'est qui cette femme qui est du côté des idolâtres et dans le groupe des femmes qui sont là pour galvaniser les hommes? Cette femme, c'est la mère d'un compagnon. Et pas n'importe lequel. C'est la mère du compagnon Mus'ab ibn Umayr. Radiyallahu anhu. Et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, c'est lui qui porte l'étendard du côté des musulmans. C'est lui qui porte l'étendard du côté des musulmans. Naam. Et on avait expliqué la semaine dernière que Mus'ab ibn Umayr, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, Ibn Abdiddar, lui aussi, descend de la tribu des Bani Abdiddar. C'est ce qu'on appelle un Abdari. Tous les descendants de la tribu des Bani Abdiddar, on les appelle les Abdari. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les biographies pour Mus'ab ibn Umayr, Mus'ab ibn Umayr, al-Abdari, radiyallahu anhu. Qu'est-ce que ça veut dire, al-Abdari? C'est-à-dire qu'il descend et il fait partie de la tribu des Bani Abdiddar. Naam. Vous avez aussi parmi les femmes des Bani Abdiddar, Sulafa bint Sa'd. Sulafa bint Sa'd. Et c'est qui Sulafa bint Sa'd? C'est une femme chez les Bani Abdiddar qui va perdre à Uhud, puisqu'on avait dit que ceux qui vont payer le plus lourd tribut parmi les idolâtres, c'est la tribu des Bani Abdiddar. C'est eux qui vont le plus perdre d'hommes. On verra plus tard, mais selon un certain nombre d'historiens, 14 personnes des Bani Abdiddar vont tomber, vont être tuées à la bataille de Uhud. Non. Il fonctionne pas. Khair. Mais c'est un problème. On me fait travailler. Là, ça fonctionne. Naam. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Le fameux micro des mosquées. Naam. Ça faisait longtemps quand même ici. Naam. Ah, ça va aller, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc on a dit Bani Abdiddar. Les femmes des Bani Abdiddar, on a aussi, donc on a dit Sulafa bint Sa'd, qui va perdre ce jour-là, elle ne le sait pas encore, on est encore au début de la bataille, mais elle va perdre son mari et trois de ses fils qui sont là parmi les Bani Abdiddar pour la bataille de Uhud. Ça nous en vient à ouvrir le sujet sur le groupe des femmes. Quel rôle elles vont jouer? Parce qu'elles jouent aussi un grand rôle. Là maintenant, au moment où la bataille n'a pas encore vraiment commencé, elles jouent un rôle. Elles jouent un rôle au moment où la bataille elle va bientôt commencer. Quel est le rôle qu'elles jouent? Ces femmes, d'abord, qui sont ces femmes? On a cité deux femmes parmi les Bani Abdiddar, mais il y en a parmi les autres tribus. Ben déjà, il y a, pas n'importe laquelle, il y a Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan. Il y a la femme de Ikrima ibn Abi Jahl. Et Ikrima, c'est le fils d'Abu Jahl. C'est qui sa femme? Sa femme, c'est Ummu Hakim bint al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughira. Ils sont cousins entre eux. Et son propre père à cette femme, donc la femme de Ikrima ibn Abi Jahl, son propre père, c'est le Harith ibn Hisham ibn al-Mughira, lui aussi il vient à la bataille de Uhud. Et il vient avec son épouse. Son épouse c'est qui? C'est Fatima bint al-Walid ibn al-Mughira, la sœur de Khalid ibn al-Walid. On a aussi la femme de Safwan ibn Umayyah qui est présente. Barzah bint Mas'ud al-Thaqafiyya, qui a perdu son fils à la bataille de Badr, donc elle vient aussi pour venger. Et on a aussi la femme de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, à ce moment-là il est idolâtre, mais plus tard il deviendra musulman. Sa femme c'est qui? C'est Raïta bint al-Munabbih ibn al-Hajjaj. Raïta, c'est la femme de Amr ibn al-As. Et cette femme, Raïta, son père c'est qui? C'est Munabbih ibn al-Hajjaj. Munabbih ibn al-Hajjaj, c'est un des chefs et des notables de la ville de la Mecque qui est mort aussi à Badr. Donc elle vient aussi avec une vengeance personnelle. Et donc ces femmes, elles sont là. Déjà, elles ont une histoire personnelle à régler avec les musulmans. Et elles jouent un rôle, c'est de montrer que même les femmes des chefs, elles sont là, montrer à l'armée que même les femmes des chefs, elles sont là. Toutes les femmes qu'on vient de citer, ce sont des femmes de notables et de chefs. En premier lieu, Hind bint Utba. Et on sait qu'elles vont entonner des poèmes pour galvaniser. On a dans la version qui est citée de chez Tabari, et aussi chez le Bazar, et aussi dans le recueil de l'Bayhaqi, avec une chaîne de transmission qui a été jugée authentique, qui nous dit que le compagnon Zubayr ibn al-Awwam, lorsqu'il nous raconte la fameuse histoire avec Abu Dujana, on en a déjà parlé il y a deux semaines, quand le professeur Hassan m'a dit « Qui veut prendre mon épée avec son droit ?» et c'est Abu Dujana qui l'a pris. Dans ce récit, chez Tabari, chez le Bazar, chez le Bayhaqi, qui a été authentifié, dans ce récit, Zubayr qui nous raconte la scène, il nous dit « Donc Abu Dujana, il a pris l'épée, il a mis le bandeau autour de son front, il a commencé même à faire des rimes. C'est moi qui a pris l'engagement de mon proche, de mon allié proche, en parlant du prophète Mohammed. C'était quoi l'engagement? C'était l'engagement de l'épée. Il lui donne l'épée, mais il doit prendre l'épée avec le droit de l'épée, comme on l'avait expliqué. Ensuite, Zubayr ibn al-Awwam, c'est lui aussi qui nous raconte et il nous dit, et il commence à avoir une démarche orgueilleuse et il se pavane. Et le professeur Hassan va dire, cette démarche, elle est interdite, sauf dans ce cas-là. On ne peut pas être orgueilleux, ni dans l'attitude, ni dans les propos. Et là, il est orgueilleux dans l'attitude. Là, on est dans l'étape juste avant l'attaque générale où chacun des deux camps essaye d'intimider l'autre et de montrer les muscles. Et le professeur Assemi va dire que cette démarche, elle est interdite, sauf dans ce genre de situation. Et ensuite, Zubayr ibn al-Awwam dit « فَجَعَلَ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٍ إِلَّا أَهْوَى عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ » Il dit, je l'ai vu à Abu Dujana. À chaque fois que quelque chose se levait devant lui, il le faisait rasseoir avec l'épée. Il le décimait. Il dit, حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَفْحِ الْجَبَلِ jusqu'à ce qu'il arrive au pied de la montagne, au pied de la montagne de Uhud. Et il y avait le groupe des femmes idolâtres Ma'ahunna dufuf, qui avait des tambours avec elles, des tambourins. Et elles se sont mises à chanter, à chantonner des rimes poétiques dans lesquelles elles ont dit, donc dans cette version, on nous dit qu'elles ont entonné Nahnu banatu tariq. Nahnu banatu tariq. In tuqbilu nu'aniq. ونبسط النمارق أو تدبر نفارق فراق غير وامق. Qu'est-ce que ça veut dire? نحن بنات طارق. Nous sommes les filles de Tariq. C'est qui Tariq? Un ancêtre chez les idolâtres, chez les tribus idolâtres, et donc elle se réfère à cet ancêtre-là qui s'appelait Tariq. Certains historiens ont dit ça, mais c'est un avis marginal. La majorité des historiens nous disent en vérité Tariq, c'est comme dans la sourate. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِ. Par le ciel, Allah Azza wa Jalla les jure, par le ciel et par At-Tariq. Et juste après Allah, il nous dit, c'est quoi Tariq? Al-Najm al-Thaqib. L'étoile perçante. C'est quoi Tariq en arabe? C'est pour désigner une étoile. Elle est tellement forte que ça fait partie des étoiles qui tardent à s'éteindre le matin. On les voit encore alors que le soleil commence à se lever. On appellera ça pas juste Najm, pas juste une étoile. On appellera ça Tariq. C'est une étoile avec une forte lumière. Yani. Ou le soir, quand le soleil commence à se coucher, ça fait partie des premières étoiles qu'on voit. Il y a d'autres étoiles. On a besoin d'un temps qu'il fasse bien sombre pour les voir. Hado, cette lumière, elle est tellement forte de ces étoiles-là, on les voit tout de suite. C'est ce qu'on appelle Tariq. Et donc, elle, en fait, elles font les éloges de elles-mêmes et elles disent « Nahnu banatu Tariq ». Nous sommes les filles de Tariq, les filles des étoiles perçantes. Elles parlent de qui? Soit elles parlent d'elles, elles font les éloges d'elles-mêmes, ou soit en fait elles parlent de leur père. Et c'est qui leur père? Pour la plupart d'entre elles, ce sont des gens qui étaient notables à la Mecque et qui ont été tués à Badr. Donc elles sont là aussi pour rappeler ça. Et c'est pour ça qu'elles disent « Nahnu banat ou tariq ». Ce n'était pas n'importe qui. C'était dans le ciel, si tu regardais les étoiles, les étoiles les meilleures, les plus lumineuses, c'était nos pères à nous, ils ont été tués. On est là pour les venger. Yani. « Nahnu banat ou tariq ». Et là, elles vont s'adresser aux hommes, aux soldats qui sont là. « In tuqbilu nu'aniq ». Si vous avancez, hein, si vous êtes braves, vous n'allez pas en arrière, vous allez devant, vous attaquez. « In tuqbilu nu'aniq ». Ça veut dire enlacer, prendre dans les bras. À la suite, c'est à toi de ne pas commencer à tout raconter. Elle nous donne le début et après à toi d'imaginer la suite. Donc elles galvanisent, elles incitent. Une tuqbilu nu'aniq. Wa nafrishu, dans certaines versions, wa nafrishu namariq, dans d'autres, wa nabsutu namariq. La version d'Ibn Ishaq, nafrishu namariq, et la version de Al-Tabari, Al-Bazzar, Al-Bayhaqi, Nabsutu al-Namariq. Mais c'est la même chose. Basata et Farasha, c'est deux verbes différents qui sont synonymes dans le sens. Qui veulent dire, et nous étalons, Namariq, c'est le pluriel de Nomruq. Nomruq, c'est des petits coussins, à l'époque, qui n'étaient utilisés que par le Nas, les gens de l'argent. C'était des choses qui coûtaient très cher, on les appelait Namariq. C'est pour ça que dans le Coran, وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Les choses qu'on s'imagine qu'elles ne sont pas pour nous. Tu trouveras ça au paradis, tu trouveras mieux encore. Et donc elle dit, si vous allez de l'avant, نُعَانِقُ, on vous enlacera. وَنَفْرِشُ النَّمَارِقُ, et on étalera les coussins. Et ensuite elle dit, أَوْ تُدْبِرُونُ فَارِقُ. Et si vous allez en arrière, nous séparons. Mais avant de parler de ça, il faut savoir que dans d'autres versions, certaines versions rajoutent encore d'autres rimes ici avant de passer à « et si vous allez en arrière, si vous battez retraite ». C'est qu'elle donnerait encore plus de détails. Elles auraient dit, ces femmes, « وَالدُّرُّ فِي الْمَخَانِقِ وَالْمِسْكُ فِي الْمَفَارِقِ ». Naam, « الدُّر » c'est les perles précieuses qui sont dans les bijoux. Donc si vous allez en avant, vous allez de l'avant, on vous enlacera, on étalera les coussins de luxe, de confort, on aura les perles précieuses autour du cou, et le parfum, le musc, c'est les cheveux. Et ça peut aussi vouloir dire toutes les articulations. On va se parfumer pour vous. Et ensuite, elles disent « Aw tudbirunu fariq » ou alors, vous allez fuir, vous allez aller en arrière, vous allez « harb » « Aw tudbirunu fariq » à ce moment-là, si vous allez en arrière, nous, on se séparera de vous. On prendra nos distances de vous. On fera le contraire, Yanni. Vous n'aurez pas droit à nous. فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقَ. Donc on se séparera de vous d'une séparation غَيْرِ وَامِقَ, يعني qui ne prendra jamais fin. C'est pas on va vous bouder quelques jours, c'est fini. وَفَهَمْ رَسْكَ. نعم. Et donc évidemment, là, les idolâtres, ils sont devenus fous. Ils veulent attaquer, ils veulent montrer, ils veulent... نعم. Il y en a à la fois, elle les incite, et à la fois, d'une certaine manière, elle touche à leur orgueil. Tout ce qui est les sentiments d'humiliation, ils étaient très forts et très reconnus chez les Arabes de l'époque. C'était ce qui s'était passé à Badr aussi, si vous vous rappelez, quand Safwan ibn Umayyah refusait de quitter la ville de la Mecque pour aider les idolâtres. Son ami Uqba ibn Abi Mu'ayt, quand il est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a envoyé l'encenseur, là, le parfum, et il lui a dit « Istajmir innama anta minan nisa ». Encense-toi, parfume-toi, tu ne fais que partie des femmes. Pourtant, c'est son ami. Un ami, tu ne parles pas comme ça, mais il sait comment il doit le convaincre. Donc, entre guillemets, il l'a humilié en public, il a touché à son orgueil, et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Normalement, quelqu'un d'intelligent, de raisonnable, il va avoir deux options. Soit, il va lui répondre, il va dire, qu'est-ce que tu me... Oh, je suis quelqu'un, moi, tu ne me parles pas comme ça. Ou soit, il ne va même pas donner d'importance tellement c'est n'importe quoi, ça n'a pas de... Cette personne n'a pas de limite. Pourquoi je vais aller à son niveau ? Lui, il se lève et il dit à son armée, allez, levez-vous, on va leur montrer c'est qui les femmes. C'était leur lexique à eux, leur logiciel à eux. Et donc ici, c'est pour ça que ces femmes, elles viennent et elles touchent à leur orgueil. Elles provoquent dans ce sens-là. Elles incitent et en même temps, elles provoquent leur orgueil. Et celle qui est à la tête de ce groupe de femmes, c'est Hind bint Utba, radiyallahu anha, parce que plus tard elle se convertira à l'islam. Mais pour l'instant, elle est loin d'être convertie à l'islam. Et donc on décrit ses attitudes. Et elle est là pour venger son père, pour venger son oncle, pour venger son frère, et pour venger une multitude d'amis, de cousins, etc., qui sont morts à Badr. Elle a perdu beaucoup.
Et c'est elle qui est à la tête du groupe des femmes. À un tel point qu'on sait qu'elle dira aussi à Wahshi, Wahshi, celui qui est l'esclave qui est payé pour tuer Hamza. Il n'a qu'une mission, lui, c'est tuer Hamza. Dès qu'elle le voit, dès que ses yeux tombent sur Wahshi, elle lui dit « Ihin abad tasma, ishfi washtafi. » Ihin, c'est pour dire « Allez », comme la semaine dernière on l'avait expliqué. Ihin, c'est pour dire « Allez ». Abad Dasma, c'était le surnom de Wahshi. Son surnom, c'était Abu Dasma. Ihin Abad Dasma. Allez, Abu Dasma. Ishfi washtafi. Ishfi washtafi. C'est le verbe shafa et le verbe yashtafi. Il y a une expression en arabe quand on dit shafa washtafa. Shafa, ça veut dire quoi? Ça veut dire guérir. Ishtafa, il s'est guéri lui-même. Pourquoi on utilise cette expression en arabe? C'est quand quelqu'un. Par exemple, il y a des gens, ils viennent, ils vont nous parler, ils vont nous humilier, ils ont les arguments, ils nous ont cassés. Et nous, on est là, on ne sait pas quoi répondre. Ouais, mais déjà, hein, après, tu ne sais pas quoi dire. Walakin, il y en a un dans le groupe qui va sortir et qui, lui, mashallah, il a les arguments. Ta, il clash, il casse, mohim. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, shafa wa shtafa. Il a guéri et il s'est guéri. Il nous a soulagés avec ses paroles. Il nous a rendu l'honneur et il s'est soulagé lui-même. C'est ça que ça veut dire, shafa washtafa. Et donc la Hind lui dit, ishfi washtafi. Fais ton travail. Tue Hamza et en tuant Hamza, guéris, soulage-nous de la soif de notre soif de vengeance et soulage-toi. Donc elle est en train de lui expliquer, même si tu es payé pour le faire, même si en échange tu auras ta libération et tu auras beaucoup d'argent. Fais-le aussi pour nous soulager, pour te soulager toi-même, parce que tu dois croire en cette cause. Fais-le pas juste pour l'argent, entre guillemets. Donc Hind, elle est là, elle fait partie de celles, évidemment c'est la chef des femmes, elle fait partie de celles qui galvanisent et qui incitent les hommes. Donc dès qu'elle voit Wahshi, elle lui dit « Ishfi washtafi ». Et comme on l'avait brièvement évoqué la semaine dernière, elle va voir aussi les Bani Abdiddar. Et elle leur dit « Waïha bani Abdiddar, waïha humat al-adbar, darban bi kulli battar, waïha bani Abdiddar, waïha humat al-adbar, darban bi kulli battar. » Waïha, ça veut aussi dire « Allez, waïha bani Abdiddar, allez les bani Abdiddar, waïha humat al-adbar, allez, vous les protecteurs de nos arrières, darban bi kulli battar, frappez avec toute l'âme aiguisée. » Ça, c'est ce que Hind dit au Bani Abdiddar qui porte l'étendard. Non. Donc, Hind bint Utba, c'est une chef, c'est la fille d'un chef, Utba ibn Rabi'a qui est mort à Badr. Et c'est l'épouse d'un chef, Abu Sufyan. À l'époque de Uhud, c'est son époux, Abu Sufyan, qui est chef. Et elle est connue aussi pour avoir un caractère, un tempérament, pour savoir se faire entendre, pour être respectée dans la ville de la Mecque. À un tel point qu'elle était capable de faire des choses que nul n'était capable de faire à l'époque, même les femmes les plus respectées, elle était capable d'affirmer son tempérament face aux hommes, face à son mari Abu Sufyan, devant les autres hommes. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Oh, aujourd'hui, Adi, Machi Mouchkil. Non. C'est l'inverse qu'on n'a plus le droit, mais ça, c'est pas Machi Mouchkil. Mais avant, dans la Jahiliya, on ne pouvait pas ça. C'était interdit. Et elle osait. À un tel point que c'est quand on fouille dans la biographie de Hind bint Utba et qu'on cherche à savoir comment elle a vécu bien avant l'arrivée de l'islam. On sait qu'avant d'être, en tout cas c'est les versions historiques par exemple qu'on retrouve chez Ibn Kathir et chez d'autres, mais qui n'ont pas été authentifiées. Mais on raconte, c'est l'histoire qui revient le plus, c'est qu'elle était mariée à un homme, donc avant l'arrivée, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la prophétie. Elle a été mariée une première fois, avant d'être mariée à Abu Sufyan, à un homme qui s'appelait Al-Faqih ibn al-Mughira. Al-Faqih ibn al-Mughira était connu pour être quelqu'un de très généreux. tellement généreux qu'il recevait tout le temps chez lui. Mais qu'il recevait tellement chez lui qu'il laissait la porte ouverte. Et que les gens avaient l'habitude de rentrer, cette porte donnait directement d'abord dans la pièce où il recevait les gens. Il les nourrissait, il les abreuvait, il les accueillait. Que les gens, en fait, qui passaient, ils pouvaient rentrer sans invitation. C'était l'habitude chez lui. Il laissait la porte ouverte. Il était généreux à ce point-là. Ajib. Et il faut savoir que il recevait de cette manière les gens, sans compter. Et on raconte que un jour, il a fait une sieste dans l'après-midi. Il n'y avait personne, donc il a fait sa petite sieste. Et le Mohim, après sa sieste, il se lève pour partir après sa sieste. Et en sortant, il part, il a des courses à faire. Et au moment où il arrive pour revenir, en fait, il y a un homme qui vient, il voit la porte ouverte, donc comme d'habitude, il veut rentrer. Il sait que c'est une maison, on a le droit de rentrer. Si l'homme est là, on a le droit de rentrer. Mais il n'y avait que son épouse Hind qui était toute seule. Et donc il rentre. Comme il voit la porte ouverte, il pense que le mari est là. Donc il rentre. Et Hind était occupée, elle ne l'a pas vu rentrer. Il rentre. Et il voit qu'il y a Hind. Il tourne, il regarde, pas d'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort en courant, il harab. Il s'enfuit. Attention, je vous parle de la jahiliya. Ils avaient des valeurs et des principes qu'ils respectaient même en temps, dans la jahiliya, dans l'époque du paganisme. Pour lui, c'était pas faisable qu'il rentre chez une femme et qu'on le voit qu'il est rentré chez une femme et que le mari n'est pas là. Donc il s'est enfui. Au même moment, au loin, le mari de Hind, Faqih ibn al-Mughira, il arrive et il voit cet homme partir en courant de chez lui. Ah ben, khlas, lui il s'imaginait quelque chose. Pourquoi il part en courant? Pourquoi il fuit? Ah, il s'est passé quelque chose. Ma femme a peut-être un amant alors. Donc il rentre chez lui et il donne un coup de pied à sa femme Hind en lui disant: qu'est-ce que tu as fait? Tu as accueilli qui? C'est qui l'homme qui est parti? Elle n'a rien vu. Donc elle dit la vérité. Si tu es devenu fou, il n'y a personne. Les seuls hommes que j'ai vus ici aujourd'hui, c'est toi tout à l'heure quand tu faisais la sieste, tu es parti et maintenant que tu es revenu. Entre-temps, il n'y a jamais eu personne. Il lui dit, subhanallah, tu veux me faire mentir alors que moi je l'ai vu avec mes yeux. Il n'y a personne. Et voilà, le malentendu, il est là. Donc il la renvoie chez son père. Et il va se plaindre à tout le monde. Voilà ce que ma femme, elle fait. Elle accueille des hommes en mon absence. Elle me trompe, etc. Et ça touche aux mœurs. Aucun homme n'accepte que dans sa réputation, on l'humilie dans les mœurs. Surtout lorsque ce n'est pas vrai. Et Hind, c'est la fille de Utba, pas n'importe qui. Utba, il dit à Hind, à sa fille, il va falloir que tu me dises la vérité. Les gens parlent de toi, les gens parlent de nous. On nous humilie. C'est pas possible que ton mari, il jure par toutes les divinités qu'il a vu un homme sortir, et toi tu nous jures que c'est pas vrai. Elle dit, moi je jure que je n'ai absolument rien fait. S'il a vu un homme, en tout cas moi je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu d'homme. J'étais toute seule, et j'ai vu personne, et il ne s'est absolument rien passé, et j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Donc Utba, il appelle son gendre. Il lui dit, écoute, il faut calmer cette histoire, ma fille, elle jure qu'elle n'a rien fait, etc. Il lui dit, écoute, moi je l'ai vu, l'homme. Je l'ai vu, on ne peut pas dire que je mens. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est pas possible qu'il était là juste comme ça et qu'il a fui, qu'il est parti en courant juste comme ça. Et comme par hasard, ta fille, elle nie. Donc il y a eu quelque chose. Utba, il dit très bien. Et donc là, ça s'est transformé en une affaire, une grave affaire de tribu, entre la tribu de Al-Faqih ibn al-Mughira et la tribu de Utba ibn Rabi'a. Chaque membre de tribu prenait la défense de sa tribu. Et Utba ibn Rabi'a, il a dit, pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes, nous allons aller voir un devin, et pas n'importe quel devin. Un devin au Yémen, qui était connu pour tout ce qui se passe, il peut le découvrir et l'expliquer. Donc il va dire, on va aller voir ce devin au Yémen, et quoi qu'il dise sur ma fille, on l'acceptera. S'il dit que c'est pas vrai que tu mens, qu'elle est innocente, khalas. Mais avant de faire ça, Utba, il a dit à sa fille, attention, on va aller voir un devin qui va jeter de la vérité. Le jahiliya, il croit en ces gens-là. Donc, et c'est un long voyage, on ne va pas aller jusque là-bas et qu'il va nous dire que tu nous as caché quelque chose et tu vas me faire honte. Elle lui dit, il n'y a pas de problème. On y va les yeux fermés jusqu'à ce devin. Donc ils partent, les deux tribus, avec un groupe de femmes, avec Hind, et ils partent jusqu'au Yémen. Et plus ils approchent du Yémen, et plus Hind bint Utba radiallahu anha, elle commence à... On voit qu'elle est angoissée, qu'elle est inquiète. Donc évidemment, qu'est-ce que les gens pensent ? C'est bizarre, plus on s'approche du Yémen, et... donc elle commence à avoir peur que la vérité soit découverte. Et son père, il le remarque qu'elle n'est plus... qu'elle est angoissée. Donc il va la voir et il lui dit, plus on s'approche du Yémen et plus tu es de mauvaise humeur. J'espère que tu ne me laisses pas aller jusqu'au Yémen et que je vais entendre quelque chose de très grave. Parce que c'était avant qu'il aurait fallu le dire. Et il va même jusqu'à lui dire, et si c'était vrai, si tu me l'avais dit, je me serais débrouillé pour l'empoisonner, pour tuer ton mari, et qu'on entende plus parler de cette histoire. Tous les problèmes ont une solution. Mais fais-moi pas ramener jusqu'au devin, et qu'après il te fera. Et là, une nouvelle fois, elle va lui dire, mais je jure que j'ai rien fait. Alors pourquoi t'es comme ça, t'es angoissé ? Elle dit, je suis angoissé parce que moi, je crois pas en ces devins. On a déjà vu des gens qui se disent devins, et de temps en temps, ils disent des choses, et l'avenir nous a prouvé qu'ils s'étaient totalement trompés, qu'ils ont menti. Donc si on tombe sur quelqu'un comme ça, un charlatan, comment on va faire ? Et qu'il mente à mon sujet. Utba lui a dit, t'inquiète pas, ça je l'ai prévu. Je vais lui faire un test de devin, il ne pourra pas le réussir, sauf si c'est un vrai devin. Et donc quand ils arrivent, Utba ibn Rabi'a, il prend sa monture, son cheval, et il va se cacher. Il va se cacher et il prend une graine de blé qu'il cache dans le cheval. Je vous passe les détails. Vous m'aurez compris. Il cache ce grain de blé dans le cheval et quand ils vont voir le devin, donc la famille, la tribu de l'époux, ils disent, voilà ce qui se passe. Ils ne lui disent pas quelle femme. Ils disent, une femme dans ce groupe, voilà de quoi elle est accusée par son mari, etc. À toi de voir qui est cette femme et de nous dire si ce dont elle est accusée par son mari, c'est vrai ou c'est faux. Et là, Utba ibn Rabi'a lui dit, attends. D'abord, tu dois réussir un test. J'ai caché quelque chose pour toi. Si tu sais dire ce que j'ai caché et où je l'ai caché, tu nous parles de cette femme. Si tu ne sais pas dire ce que j'ai caché et où je l'ai caché, non. Et là, il va dire, c'est un devin, donc les devins avant, ils parlent avec des rimes. Et aussi, même si dans la jahiliya, il a un minimum de yahshim un peu quand même. Donc il va lui dire, thamara fi kamara. Une récolte, il ne dit pas un grain de blé, une récolte, fi kamara, kamara, c'est quand on parle de quelque chose qui est refermé. Léana, ce que je n'ai pas dit dans les détails, c'est que pour être sûr que le grain de blé soit retrouvé, il l'a fait juste avant d'aller voir le devin, et il l'a attaché l'organe génital du cheval. Donc il lui dit, kamara, fi kamara, une récolte, dans quelque chose d'attaché. Et lui dit, Uridu abyana min dhalik, je veux quelque chose de plus précis que ça. C'est trop général ce que tu as dit. Et là, comme il veut plus précis, il lui dit la chose. Un grain de blé, et voilà où tu l'as mis. Et là, même les gens qui étaient dans son groupe n'étaient pas au courant. Ils disaient, ah, c'est un vrai devin. Non. Il travaille avec les chayatines. Et donc, ils lui disent, maintenant, tu peux parler. Et on raconte dans le récit, je vous ai dit, ce n'est pas un récit qui a été authentifié, parce qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission, donc on est incapable de dire si c'est authentique ou pas. Mais en tout cas, si on en croit ce récit, qu'on retrouve dans l'ouvrage « Bidaya wa Nihaya » d'Ibn Kathir, il va voir les femmes une par une, et dès qu'il regarde une femme, « Lève-toi, toi tu n'es pas concerné. » Jusqu'à ce qu'il arrive à Hind, il lui tapote comme ça sur l'épaule et il lui dit « Tu es une femme qui a été accusée, mais qui a été accusée à tort. Tu n'as rien fait de mal. Tu es innocente comme l'est l'enfant. » Non. Hassanun, Razanun, tu es chaste, Razan, innocente, Na'al. Et il va même jusqu'à lui dire, selon cette version qui n'a pas été authentifiée, et tu donneras naissance à un roi que tu appelleras Muawiyah. Et le compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan va devenir calife. Hein? Il va être le premier calife des Omeyyades, de la dynastie des Omeyyades. Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Tu donneras naissance à un fils qui sera roi. Et là, donc son mari, le Faqih ibn al-Mughira, son mari le Faqih ibn al-Mughira, ça va revenir, Inch'Allah, on a perdu le réseau. Son mari le Faqih ibn al-Mughira, il vient et lui demande pardon. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Ah, tu viens demander pardon maintenant. Après que tu m'as sali et que tu n'avais pas eu confiance en moi, maintenant tu viens me demander pardon. Tu ne viens pas me demander pardon. Tu as entendu qu'on va avoir un roi. Hein? Eh bien, je ne l'aurai pas avec toi, ce roi. Je l'aurai avec quelqu'un d'autre. Et elle a demandé à son père de ne plus vivre avec cet époux. Et donc, ils se sont séparés, il y a eu divorce. Et c'est par la suite qu'elle s'est mariée avec Abu Sufyan et qu'elle a donné naissance à Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, qui deviendra plus tard le premier calife de la dynastie des Omeyyades. Non. Oui, j'ai ouvert une parenthèse, on va la refermer. Tout ça pour dire que les femmes, des Bani Abdiddar et les femmes en général, le jour de la bataille de Uhud, elles vont jouer un rôle également. Et Abu Sufyan, après tout ça, avant l'attaque générale, il va encore tenter une chose. Avant qu'il attaque générale, il va réfléchir à comment faire pour essayer de faire en sorte que cette armée qui est déjà trois fois moins nombreuse que la sienne, l'armée des musulmans, elle est trois fois moins nombreuse que l'armée d'Abu Sufyan, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte qu'ils se retrouvent encore moins nombreux et qu'il y ait beaucoup de gens parmi cette armée qui s'en vont, qui partent. Et là, il va avoir une idée qu'il va mettre en application. C'est quoi cette idée? Et est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Juste avant que vous partiez, Allah yajzikum bi khair. Est-ce qu'on laisse on laisse comme ça l'Aïcha ou là maintenant on fait le Maghreb? Maghreb, c'est bien. Maghreb?